Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, ce sont vos réactions aux résultats historiques obtenus par l'extrême droite en France. Nous sommes au lendemain du premier tour des élections législatives anticipées. Le Rassemblement national, dirigé par Marine Le Pen et Jordan Bardella, s'est hissé à la première place en obtenant un peu plus de 33% des suffrages exprimés. Le Nouveau Front Populaire, l'Alliance de Gauche, est arrivé deuxième avec 28% des voix. Et je vous rappelle que le camp présidentiel a quant à lui terminé troisième avec un peu plus de 20%. Dans une semaine, l'extrême droite peut donc très clairement accéder au pouvoir. Que vous inspire cette perspective? Comment analysez-vous la percée du Rassemblement National? Quelles conséquences sur les relations avec l'Afrique? Appelez-nous, rejoignez-nous, 33 9 693 693 70 et vos commentaires également sur nos réseaux sociaux. J'en lirai quelques-uns pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que les premières questions sur les législatives en France nous arrivent maintenant. Donc, on prendra le temps, évidemment, demain et tout au long de la semaine pour y répondre. Mais d'abord, donc, des questions sur d'autres sujets d'actualité. Et on va commencer avec des questions sur la chanteuse malienne Rokia Traoré. Vous l'avez certainement entendue sur notre antenne. Elle a été arrêtée il y a 10 jours maintenant à Rome, en Italie. Bonjour Marius Trésor.
Oui, bonjour Monsieur Wan, bonjour à toute l'équipe d'Affaires sur l'actualité.
En Côte d'Ivoire, nous vous écoutons.
Ok, la chanteuse malienne Rokia Traoré doit être présentée devant la justice italienne pour savoir si elle peut être libérée ou maintenue en détention. Alors Monsieur Wan, j'ai entendu que c'était à cause d'un conflit autour de la garde de sa fille. Mais pourquoi a-t-elle été emprisonnée?
Alors, Rokia Traoré, détenue effectivement pour une affaire qui l'oppose à son ex-compagnon pour la garde de leur fille, Frédéric Gara. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Expliquez-nous ce conflit.
Bah c'est le énième épisode d'un conflit qui oppose, vous l'avez dit, le couple Goussens-Traoré. Yann Goussens est un homme de théâtre belge assez connu qui a vécu avec la chanteuse malienne Rokia Traoré pendant à peu près 5 ans avant de se séparer en 2019. Alors qu'on semble s'acheminer vers une garde de l'enfant en bonne intelligence, très vite, la justice belge demande à ce que cette garde soit confiée au père, tandis que la mère, Rokia, oppose, elle, que le lieu de vie et de scolarité de leur enfant, de leur fille, donc, est à Bamako. Et Rokia, finalement, refuse, contre l'avis de la justice belge, de confier cette garde au père à Bruxelles. Dès lors, Yann Goussens porte plainte contre son ex-compagne et cela aboutit à un mandat d'arrêt européen pour enlèvement, séquestration et prise d'otage des chefs assez importants.
Ce qui lui vaut d'ailleurs une première arrestation en France.
Tout à fait, c'est ainsi qu'elle est arrêtée lors d'un voyage en France le 10 mars en 2020, puis brièvement emprisonnée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant une quinzaine de jours, avant d'être enfin libérée et de pouvoir repartir à Bamako au printemps, malgré un placement sous contrôle judiciaire, ce que d'ailleurs la justice belge ne comprend pas. Depuis cette période, il y a donc 4 ans, Rokia ne voyageait plus du tout en Europe et limitait ses déplacements internationaux pour son travail et ses spectacles, craignant d'être sous le coup de ce mandat d'arrêt et d'être interpellée à tout moment, une crainte d'être arrêtée et extradée vers la Belgique, où elle est condamnée donc à 2 ans de prison pour non-représentation d'un enfant à la personne en ayant la garde.
Ah, et vous le disiez, Frédéric Gara, Rokia Traoré fait donc l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Dès lors, on a du mal à comprendre pourquoi elle s'est rendue en Italie.
Oui, c'est la grande question. Elle savait pertinemment qu'il y avait ce mandat d'arrêt qui courait contre elle. Pourquoi est-elle allée le 21 juin se produire à Rome? Ça, c'est vraiment la grande interrogation. On a interrogé beaucoup de gens autour d'elle. Personne ne comprend. On suppose qu'elle avait envie de crever l'abcès et ainsi de résoudre ce problème qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête et au-dessus de sa carrière. Ces démêlés judiciaires, il faut bien comprendre, l'empêchent clairement de poursuivre une carrière normale à travers le monde. À part quelques dates sur le continent nord-africain ou hors d'Europe. Je crois qu'elle est allée aux États-Unis ou en Asie. La carrière de Rocchia a commencé à sérieusement marquer des signes de faiblesse. Son avocate italienne, Maître Del Rey, que nous avons contacté, nous expliquait d'ailleurs que lors d'une visite à la maison d'arrêt de Civitavecchia, près de Rome, eh bien, c'était un des arguments avancés par Rocchia Traoré. C'est un broglio judiciaire et familial. Commence à peser de manière dommageable sur sa vie d'artiste. Reste à voir si elle va être libérée par la justice italienne ou est conduite vers la Belgique pour répondre devant la justice. Eh bien, on devrait être fixé demain, mardi 2 juillet, puisque Rocchia doit comparaître devant la cour d'appel de Rome.
Marius Trésor.
Oui, j'ai une seconde question. Où se trouve sa fille actuellement ?
Alors ça, c'est la grande question. Ce qui est certain, c'est qu'elle est à Bamako. On suppose que sa fille, donc âgée de 9 ans, est sous la garde de ses parents, notamment de ses sœurs. Rocchia Traoré vit à Bamako à la Fondation de la Passerelle, qui est aussi sa maison et son lieu de spectacle. C'est dans le quartier du 3e pont à Bamako. On suppose que donc la fille de Rocchia Traoré et de Yann Goussens est en ce moment là-bas.
Ah, voilà ce qu'on peut vous dire, Marius Trésor, à cette heure-ci. On en saura déjà plus demain. Concernant l'avenir judiciaire de Rocchia Traoré, puisqu'elle doit comparaître devant la cour d'appel de Rome. Je vous souhaite une bonne journée, Marius Trésor.
Merci à vous également.
Et on salue tous ceux qui nous écoutent à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne. À bientôt, Frédéric Gara, du service Afrique de RFI, 10h17 à Paris. Des questions après la mort de plusieurs migrants tchadiens au Mexique. Bonjour Janvier.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue, nous vous écoutons et merci de nous appeler de Mundu.
Je vous appelle de Mundu. Plusieurs Tchadiens sont morts noyés la semaine dernière en tentant de rejoindre les États-Unis par le Mexique, une frontière traversée par de plus en plus de Tchadiens.
Oui.
Comment expliquer l'augmentation du nombre de Tchadiens qui tentent de rejoindre les États-Unis? Et comment font-ils pour rejoindre l'Amérique du Nord?
Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de migrants subsahariens qui choisissent la traversée de l'Atlantique pour allier les États-Unis via l'Amérique centrale. Bonjour Ezra Zikoumana.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI, la mort de ces jeunes Tchadiens vous a été confirmée par le président de l'association américaine Démocratie et Droits de l'Homme pour l'Afrique, une association qui aide les migrants africains dans leur demande d'asile une fois aux États-Unis. Sait-on pourquoi les jeunes Tchadiens sont de plus en plus nombreux à tenter cette aventure vers les États-Unis ?
Eh bien, Juan, selon cette association, eh bien, c'est ceux qui sont arrivés aux États-Unis justifient le choix de faire cette difficile et périlleuse traversée par les violences politiques qui ont émaillé la période de transition au Tchad. Cette ONG assure également que le nombre de migrants a fortement augmenté, par exemple, après la répression sanglante des contestations de la transition du 20 octobre 2022, ou encore récemment après la mort de Yaya Diallo, un opposant qui a été tué lors de l'assaut de son domicile par l'armée N'Djamena. D'autres mettent en avant la pauvreté extrême dans le pays et aussi le manque d'espoir pour la jeunesse selon toujours cette organisation, ou encore le fait qu'il est de plus en plus difficile d'émigrer vers l'Europe, un continent qui est en train de se barricader.
Voilà, les États-Unis, nouvelle route migratoire périlleuse, vous le disiez, Zikoumana. Comment font les Tchadiens, ces jeunes Tchadiens, pour rejoindre justement le continent américain ?
Eh bien, il y a eu deux itinéraires. Le premier itinéraire, ces migrants avaient privilégié dans un premier temps la filière qui passe par Istanbul, c'est en Turquie, qui ralliait en avion en passant par plusieurs pays de la région, notamment le Maroc, avant de s'envoler vers Managua ou au Nicaragua, un pays où ils n'ont pas besoin de visa d'entrée en tant que Tchadien, avant de remonter vers les États-Unis. Mais la Turquie a fini par leur fermer la porte. Ils ont donc dû trouver une nouvelle filière de contournement. Eh bien, ils ont donc choisi une autre voie qui passe par le Cameroun, où ils prennent l'avion pour l'Espagne avant de s'envoler pour Managua, au Nicaragua.
Donc je comprends bien que c'est du Nicaragua que commence véritablement ce périple, ce grand voyage sur le continent américain pour essayer de traverser la frontière.
Absolument, c'est une route. Ils vont prendre la route. Vraiment, ils vont remonter vers le nord, vers les États-Unis, en passant par le Honduras, le Guatemala, puis enfin le Mexique. Certains y vont en bus, en voiture, en train, etc. Alors que d'autres sont obligés de marcher une bonne partie du chemin, selon toujours les témoignages recueillis par cette ONG. Chacun selon ses moyens, en fait.
Oui, parce qu'il y a deux routes, en fait. Il faut expliquer qu'il y a deux routes distinctes, une plus courte, mais plus chère.
Oui, alors, Donc la première, c'est 3 jours de route.
Donc on part en voiture plus longue.
La deuxième, qui est plus courte, c'est une. Il va notamment par le bateau. Et donc, on on essaie de rallier le Mexique par le bateau, mais là aussi la route est plutôt difficile parce que il y a des risques de noyade, hein, on en a parlé. Ensuite, on doit traverser le désert pour arriver à la frontière américaine.
Ouais. Voilà ce qu'on peut vous dire, Janvier. Est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Parfaitement, merci Estra, merci à toute l'équipe d'Appels de l'actualité.
Et merci à vous de vos encouragements, merci Ezra Zikoumana. Vos explications sont évidemment à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Bonne journée Ezra.
Merci.
10h21 à Paris, 8h21 en temps universel, 33 9 693 693 70. N'oubliez pas dans 20 minutes maintenant vos réactions au lendemain du premier tour des élections législatives anticipées et le résultat historique obtenu par l'extrême droite. RFI vous donne la parole, continuez donc à nous appeler. On poursuit avec vos questions, on va parler du Sénégal. Vous avez certainement entendu parler de cette baisse du prix de plusieurs denrées alimentaires au Sénégal, notamment le sucre, l'huile, la baguette de pain ou encore la farine. Bonjour Aboubacar.
Bonjour Juan.
Vous êtes dans la capitale sénégalaise, c'est bien ça ?
Oui,
on va tendre l'oreille. Le réseau n'est pas très bon. Allez-y, quelles sont vos questions ?
Merci beaucoup, Juan. Merci à RFI et à tous les correspondants et correspondantes RFI. Les miniers au Sénégal ont décidé de respecter les prix fixés par l'État. Comment expliquer ce revirement ? S'y a-t-il des négociations ?
Alors, c'est vrai que la baisse des prix dont je parlais un instant était très attendue par les consommateurs. Seulement, voilà, les meuniers, eux, ont menacé de suspendre la production de farine boulangère. Ils ont dit pas question de vendre à perte. Bonjour Juliette Dubois.
Bonjour Juan, bonjour Aboubacar.
Correspondante de RFI dans la capitale sénégalaise, les meuniers ont finalement décidé de reprendre leur activité et donc d'appliquer les prix fixés par le gouvernement ?
Oui, tout à fait. Alors, pour rappel, ce prix représente une baisse de 4 000 francs CFA par sac de farine de 50 kilos. Il est passé de 19 200 francs à 15 200 francs avec la mesure du nouveau gouvernement entrée en vigueur la semaine dernière. Ça ne concerne d'ailleurs, vous l'avez dit, pas que la farine, mais d'autres produits de première nécessité, comme l'huile ou le riz. Dans un premier temps, les meuniers ont expliqué que ce n'était pas tenable pour eux, malgré une partie de la baisse de prix compensée par l'État qui renonçait à ses droits de douane et à sa TVA. Il restait encore un écart d'à peu près 2 600 francs CFA par sac à combler. Les meuniers se retrouvaient donc contraints de vendre à perte, selon l'AMIS, l'association des meuniers industriels du Sénégal. Et il y avait aussi une autre préoccupation, celle des stocks déjà dédouanés et disponibles dans le circuit. À quel prix les vendre désormais ? Comment compenser la perte ? Les meuniers voulaient des réponses et c'est pour ça qu'ils ont annoncé l'arrêt de la production lundi dernier. Mais il y a rapidement eu une annonce de reprise dans la journée.
Alors justement, comment expliquer ce revirement ? Est-ce qu'il y a eu des négociations avec le gouvernement ?
Oui, le jour même, il y a des médiateurs qui sont intervenus entre les deux, le Conseil national du patronat et le Syndicat national des industriels du Sénégal. Ils ont parlé avec le ministère du Commerce au nom des meuniers et leur ont demandé de reprendre la production. Selon Claude Demba Diop de l'AMIS, un premier point essentiel a été réglé lors de la médiation, celui des stocks déjà existants que j'évoquais à l'instant. Le ministère du Commerce et les meuniers vont évaluer les stocks déjà dédouanés, les bateaux arrivés, le blé déjà transformé et livré dans les commerces, et ces stocks seront inventorié puis remboursé par le gouvernement. Les discussions vont continuer avec les techniciens du ministère pour régler la question des 2675 francs CFA à combler. Claude Demba Diop m'expliquait qu'il y aurait une prise en charge partielle par le gouvernement. Reste à fixer la somme exacte. Il a en tout cas bon espoir que la situation soit complètement réglée cette semaine.
Et il y aura donc encore des baguettes dans les boulangeries sénégalaises. Il y a donc eu, si je comprends bien Juliette Dubois, des négociations, mais aussi, et c'est important de le préciser, un avertissement de la part du gouvernement, avertissement que les meuniers ont dû entendre.
Oui, le gouvernement a tout de suite mis la pression sur les meuniers avec une mise en demeure de reprendre leur production. Le ministre du Commerce a enfoncé le clou en dénonçant des surévaluations de charges par les meuniers industriels et des pratiques commerciales douteuses assimilables à des actes anormaux de gestion, je cite. Il a aussi rappelé que la détermination des nouveaux prix de la farine de blé résultait d'analyses techniques rigoureuses. Et même après le recul des meuniers, le Premier ministre Ousmane Sonko ne lâche pas l'affaire. En Conseil des ministres la semaine dernière, il a souligné la détermination du gouvernement à poursuivre les investigations pour clarifier les contrats et pratiques douteuses de certaines entreprises, en commençant par celles évoluant dans la minoterie. L'association des meuniers industriels se dit sereine, ils sont en règle et ces menaces sont surtout de la communication, selon leur président.
Eh bien, on suivra ça évidemment avec vous dans les prochains jours. Aboubacar, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci. Merci, je suis satisfait des réponses. Et merci à Juliette.
Juliette Dubois, correspondante de RFI dans la capitale sénégalaise. Bonne journée à tous les deux. Il nous reste 5 minutes, on a le temps de prendre une dernière question. Et d'ailleurs, je me fais un plaisir ce matin de dire bonjour à Djoukoulolo. Bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Comment allez-vous ?
Bien, ça va.
Bon, je vous pose la question et je suis ravi de vous avoir, puisque c'est vrai que la semaine dernière, vous étiez avec nous à l'antenne, vous aviez commencé à poser votre question et notre expert, malheureusement, n'a pas pu vous répondre en raison des problèmes de liaison téléphonique. Vous souhaitiez que l'on revienne sur le retrait progressif des casques bleus de la République démocratique du Congo.
Oui.
Oui. Alors, quelle était votre question ?
Alors, la MONUSCO a fermé la semaine dernière sa base dans la province du sud de Kivu.
Oui.
Ma question, qu'est-ce que la MONUSCO et la RDC ont mis en place pour assurer la sécurité de la zone ?
Oui, c'est une bonne question, vous savez, que vous posez, et nombreux se la posent. En RDC, est-ce que le départ de la MONUSCO ne risque pas de créer un vide sécuritaire ? Bonjour Adolphe Aguenonga-Chaubert.
Bonjour Juan.
Vous êtes professeur à l'université de Kisangani, spécialiste des mouvements armés dans l'est de la RDC. C'est vrai que maintenant qu'il n'y a plus de casque bleu dans cette province, la protection des civils est désormais entre les mains des autorités. Sait-on si un dispositif particulier a été mis en place justement pour prendre le relais de la MONUSCO, donc des casques bleus ?
Alors, à mon humble avis, les dispositifs sécuritaires sont presque improbables, à part les agences du système des Nations Unies, appuyées par une équipe résiduelle de 34 civils qui sont chargés de maintenir un réseau d'alerte communautaire en vue de protéger notamment les enfants et maintenir le dialogue en communautaire. Alors, le plan de retrait de la MONUSCO prévoyait assez que au moins, je crois, 7 bases de la MONUSCO qui ont été identifiées,
oui,
et 15 installations devraient être transférées aux autorités congolaises. Mais cependant, l'équation réside au niveau de 2 bases qui n'ont ni été transférées aux autorités congolaises et qui n'ont ni été fermées. Il s'agit de bases de Mikenge et de Minembwe qui se trouvent dans les territoires de Fizi. Dans cette base, la MONUSCO n'a pas pu évacuer ce matériel parce que la région est totalement désenclavée. En plus, il n'y a aucune présence de services de sécurité dans cette zone. Ce sont des groupes armés communautaires qui contrôlent, qui règnent en maître dans cette région. Du coup, le problème des transferts de responsabilités comme le plan le prévoyait aux autorités congolaises n'a pas pu
Pourtant, Adolphe Aguenonga-Chaubert, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, s'est voulu rassurant la semaine dernière. Il a clairement dit que le gouvernement assumera pleinement les activités autrefois exercées par la MONUSCO.
Oui, assumer pleinement la responsabilité suppose qu'effectivement le gouvernement a consolidé l'autorité de l'État dans cette région. Ce qui est loin d'être le cas, je parlais en tantôt notamment de territoires de Fizi. Et d'ailleurs, dans ces territoires, ce sont des groupes armés. Il y a Tui Rwaneo et une autre milice qu'on appelle Biloji du Chambouké, qui se disputent le contrôle de cette zone. Tui Rwaneo, par exemple, en prétend assurer la sécurité de la minorité en Banyamulenge. Et du coup, la question qui se pose avec la cité aujourd'hui, est-ce que le retrait de la MONUSCO
Est-ce que le retrait de la MONUSCO va créer un vide sécuritaire ? Effectivement, c'est la question que se posait notre auditeur et que de nombreux auditeurs se sont posés la semaine dernière, puisqu'on a évidemment évoqué cette actualité avec nos fidèles auditeurs de la République démocratique du Congo. Merci infiniment Adolphe Aguenonga-Chaubert. Je sais que la liaison téléphonique était une fois de plus de mauvaise qualité, mais on a compris quand même l'essentiel de votre analyse. À bientôt, Djoukoulolo, et vous tous, vous restez à l'écoute de RFI. Évidemment, dans un instant, la dernière édition d'Afrique Matin et tout de suite après vos commentaires, vos témoignages, après le résultat historique obtenu hier soir par l'extrême droite en France lors du premier tour des élections législatives anticipées. Que vous inspire la perspective du RN au pouvoir ? 33 9 693 693 62.